bibliographique, voilà ce qui est un grand terme. Je vois bien que tu te...
Oui, je vais m'arrêter.
Voilà. Merci. Alors, par notre bibliographique, merci monsieur, on va commencer. Notre bibliographique, c'est un grand terme. En fait, je voulais juste vous parler des aléas, des difficultés qu'il peut y avoir à reconstituer la biographie de Howard à travers deux, trois exemples choisis qui me semblent intéressants et qui permettent d'aller au-delà, entre guillemets, du cliché. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un de vouloir s'atteler à une biographie aujourd'hui de Howard, puisque vous savez qu'il y a eu deux biographies pour l'instant qui ont été écrites de taille en volume aux États-Unis. Il y a la première, c'est celle des époux de Camp, qui est une somme sur laquelle beaucoup d'inventions, de mensonges, etc., qui est assez gênante. La deuxième, de Mark Finn, qui est parue en 2006, c'est une version augmentée qui est sortie 3 ans plus tard, qui est intéressante mais qui ne se veut pas définitive, en ce sens que Finn est un Texan et il a donc décidé d'écrire une biographie de Howard en tant que Texan. Et là, il y en a une qui est en cours d'écriture par un autre Texan qui s'appelle Todd Vick, donc qui fait ses recherches. Là, je l'ai aidé sur quelques trucs. Je ne sais pas quand est-ce que ça va paraître. Et je suis terminé par citer, pour moi, une des meilleures en termes de synthèse, c'est celle de Fabrice Torté, dans l'ouvrage Écho de Siméry, qui est paru il y a maintenant 8 ans. Juste comme ça. Je pense que l'ouvrage est encore disponible et c'est un remarquable effort de synthèse en français des connaissances qu'on pouvait avoir de Howard jusqu'à cette époque-là. Alors pourquoi est-il difficile d'écrire une biographie de Howard? Tout simplement parce que lorsqu'on réfléchit un petit peu, une biographie, ça va. On ne parle pas des textes, on peut parler des textes évidemment, de l'œuvre, mais les gens qui ont connu Howard, c'est quelqu'un dont la mère est morte le jour après lui, son père est mort quelques années après, c'est quelqu'un qui était un menteur, donc tout ce qu'il a pu écrire, il convient de s'en méfier. Howard n'avait pas de frère, il n'a pas eu de descendance évidemment. Ses meilleurs amis étaient sur Cross Plains, la petite ville. Aucun d'entre eux n'a jamais dit ou livré quoi que ce soit. Son meilleur ami, celui qui savait a priori tout, s'appelait Lindsay Tyson. Et Lindsay Tyson a toujours refusé de vouloir parler de Howard. Et il avait quelques personnes auprès desquelles il arrivait un petit peu à parler. Le souci, c'est qu'il y a eu deux soucis pour Lindsay Tyson. Le premier, c'est que Howard a emprunté à Tyson l'arme à feu avec laquelle il s'est suicidé. Donc ce qui fait que Tyson, après, on comprend, il avait quand même beaucoup de mal à gérer la chose. Et deuxième élément, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Sprague de Camp, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est venu interroger Tyson en 77-78 lorsqu'il écrivait sa biographie. Et au bout de 3 échanges, de Camp a reçu une lettre de Tyson lui disant qu'il ne fallait plus lui écrire. Il refusait de collaborer avec lui, il refusait que son nom apparaisse dans la biographie de Sprague de Camp, et il refusait que tout ce qu'il avait pu lui dire soit utilisé dans le livre. Donc ça pose un petit peu la chose. Je continue. Dans le cercle des amis proches de Howard, il y a 3 personnes. Il y avait Trevor Vinson, qui lui n'a jamais voulu écrire sur Howard. Il y avait David Clyde Smith, qui lui a toujours voulu écrire son ami Howard, mais qui ne l'a jamais fait. Alors il a pris quelques notes, mais il n'a jamais écrit de biographie. Il est mort en 84, on a quelques notes, mais elle n'a jamais été écrite. Et il y avait Harold Priest, qui avait connu Howard brièvement, qui a voulu écrire une biographie, qui a donc refusé de collaborer avec Sprague de Camp, et qui est mort aussi sans avoir écrit de biographie. Donc, essayez d'écrire une biographie à partir du moment où vous vous rendez compte que vous n'avez aucun membre de votre famille proche, aucun ami même du cercle voisin qui est là pour vous aider. Ça veut dire que vous êtes en train de reconstituer la vie de quelqu'un à partir de traces qui peuvent être des articles de journaux ou alors des témoignages indirects de quelqu'un qui a vu un tel dire un truc. Et la biographie des Sprague de Camp, elle est entièrement basée là-dessus. Vous avez un exemple en particulier, lorsque les époux de Camp disent, en particulier, je pourrais vous en citer une centaine, ils disent à un moment, et oui, la mère de Howard n'était pas très très bien lorsqu'elle a accouché, du coup ils vont habiller dans telle baraque. Et c'est dans cette baraque que Esther a passé les derniers mois de sa grossesse. Esther, c'était la mère de Howard. Il y a quelques années, quand je fais des recherches là-dessus, je m'aperçois que la femme en question avait 98 ans quand Sprague de Camp l'a interviewée, et que le fils Howard est né 2 ans avant. Donc, en fait, tout ce qu'elle elle se raconte de choses qui étaient absolument des souvenirs, soit inventés, soit déformés par le temps. Elle était très, très âgée. Mais ce premier camp n'a pas été vérifié. Et donc, en fait, on a énormément d'éléments sur lesquels, aujourd'hui, on ne peut pas se baser. Pensez à l'exemple de la fameuse note de suicide de Ward. Tout s'est enfui, tout est fini. Tous les gens qui ont lu Ward il y a 20-30 ans savent tous que le jour où Ward s'est flingué, il est rentré dans sa chambre, dans son bureau. Il a écrit un poème. Tout s'est enfui, tout s'est fini aussi. Portez-moi sur le bûcher funèbre, la fête est finie, les lampes s'éteignent. Et il est allé dans sa voiture, il s'est suicidé. Sauf que ça ne s'est jamais produit. On a retrouvé un peu après, dans le portefeuille de Ward, ces quelques vers qui étaient écrits sur un bout de papier. C'est une paraphrase d'un poème de Viola Garvin. On ne sait pas si ce poème, ce couplet était écrit 2 semaines avant la mort de Ward, 2 mois ou 2 ans. On ne sait pas si ça avait un rapport avec son suicide ou si c'était quelque chose. Donc toutes les choses qu'on croyait savoir, on savait tous que Ward était né, par exemple, a vécu à Dark Valley lorsqu'il était enfant, lorsqu'il avait ses parents habitent à Dark Valley, il a accouché à Pister, il est de Dark Valley. Sauf qu'à 4 ans, j'ai démontré que c'était faux. Donc tout ce qu'on croit, en tout cas beaucoup de choses qu'on croit savoir sont fausses, et il est donc extrêmement impossible de vouloir dresser la biographie de quelqu'un dont on ne connaît l'existence qu'en creux, puisqu'on ne bénéficie de quasiment aucun témoignage direct, à l'exception de celui de Novaline Price, qui était la personne avec laquelle Ward est sorti pendant 1 an et demi, 2 ans. Novaline tenait un journal intime à l'époque, un coup de chance, parce qu'elle voulait devenir auteur. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle écrivait sa journée sur un journal intime pour s'entraîner à écrire. La chance qu'on a, c'est qu'elle a gardé, qu'elle a conservé ce journal et qu'elle l'a publié 50 ans après, quasiment tel quel. Ça veut dire qu'elle n'a pas cherché à colorer ou à teinter ses souvenirs, elle a simplement utilisé la matière telle qu'elle l'avait vécue 50 ans auparavant. Et c'est un témoignage extrêmement précieux, et je dirais même que c'est le seul témoignage que l'on a qui nous permet de pouvoir appréhender Howard l'homme au quotidien, puisque tous les témoignages dont nous disposons sont des témoignages indirects ou déformés ou de gens qui n'ont pas connu Howard au quotidien.
Par rapport à Lindsay Tyson, donc il a été interrogé par Frank de Kamp.
Oui.
Ouais. Il me semble que toutes les notes, les comptes rendus, etc., ont été conservés.
Oui, j'ai les lettres, hein, j'ai tout ça, mais il n'y a rien.
Les témoignages de Lindsay Tyson, ils existent.
Ils existent. Oui, il y a pas assez. Enfin, je les ai tous. Hein. Il y a pas mal de choses super intéressantes, mais qu'on ne pouvait pas à l'époque utiliser dans la. On sent qu'il a beaucoup de choses à dire, mais que ça n'a pas été dit. Et donc, alors, sans vouloir non plus amuser à semer des sprites de camp, parce qu'on va vraiment faire croire que je m'acharne, mais pour avoir lu toutes les retranscriptions des interviews, à chaque fois, c'était quelqu'un qui disait « Ah, je me souviens que tel jour », et là, vous avez la femme de Sprague de Kamp qui dit « Vous prendrez bien un petit peu de café ?» Et du coup, la personne qui avait 75 ans était pouf, un souvenir perdu pour l'éternité. Bref. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est quelques chercheurs dans le monde où on s'intéresse à essayer véritablement de reconstituer la biographie de Ward et de surtout de ne pas aller se contenter de « on a entendu ça, donc voilà, donc c'est l'histoire ». On va aller vraiment, on va chercher, donc on est deux principalement, c'est Rob Rim qui habite en Californie et moi, on adore aller fouiller dans les vieux journaux, dans les choses comme ça, à la recherche d'éléments et pour découvrir des choses sur Ward. Et on se rend compte qu'on en découvre, mais en permanence. Il y a 3-4 mois, j'ai découvert une lettre de Ward inédite, par exemple. Et là, donc tout à l'heure, je vous avais promis la découverte, la primeur de comment est-ce que Ward est devenu un auteur professionnel. L'histoire qu'on avait à l'époque, c'était, enfin jusqu'à présent, c'était, ben voilà, Ward découvre Urtez, il dit, c'est génial comme revue, et du coup, il écrit son premier texte, qui s'appelle Spare and Hang, Lance et Croc. Il envoie ça à Urtez, Urtez l'accepte, et puis voilà, ben, il devient auteur publié. Or, quand on lit la nouvelle, bon, elle est, on va dire, passable, au mieux, hein, on sent bien que l'auteur a 18 ans, qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir avant de devenir un auteur professionnel. Mais selon Wright, c'était une petite nouvelle très très sympathique. Il y a quelques mois, donc c'était donc l'histoire officielle. Et c'est l'histoire qui a eu cours pendant 80 et quelques années. Voici comment se serait lancée la carrière de Ward. Il y a quelques mois, je lis le numéro de décembre 1924, je crois d'octobre ou novembre 24 de Wiertels. Et à la fin, dans ce numéro, on trouve une nouvelle d'un monsieur que vous connaissez peut-être, c'est un fervent Lovecraftien, un monsieur qui s'appelle C.M. Eddy Jr. Il est connu pour avoir écrit une des nouvelles les plus horribles, enfin les plus choquantes de Gertel, qui s'appelait The Love Dead, qui est une nouvelle qui parle de nécrophilie. Donc ça avait beaucoup choqué à l'époque dans le sud des États-Unis, comme vous pouvez l'imaginer. Et C.M. Eddy a collaboré avec Lovecraft sur deux nouvelles. Enfin, Lovecraft a révisé deux nouvelles de Eddy, donc c'est son titre de gloire, entre guillemets. Bref, dans ce numéro d'octobre 1924, Eddy publie un récit préhistorique dans lequel on voit des hommes préhistoriques se taper contre des dinosaures. Grande mode de l'époque, et un récit qui a quand même quelques points communs avec la première nouvelle de Howard. Et à la fin de la revue, dans le courrier des lecteurs, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est quand même Weird Tales, donc une revue qui est lue par tous les fans de fantasy, etc. Donc c'est étonnant que ce courrier n'ait jamais été repéré par quiconque en 80 ans. On a un éditorial de Wright qui dit, ben vous voyez, dans ce numéro, on a une nouvelle de monsieur C.M. Eddy Jr. qui parle qui a une nouvelle préhistorique et donc dans laquelle il y a des hommes et des dinosaures. Mais ce qui serait quand même très sympa, c'est qu'on puisse un jour, enfin, lire une nouvelle dans laquelle nous avions un homme de Cro-Magnon qui se tape avec un homme de Néandertal. Parce que, ben voilà, ça n'existe pas. On n'a pas encore ça en termes littéraires, et franchement, j'adorerais ça. On pourrait imaginer que voilà, l'homme de Cro-Magnon serait un artiste, et que l'homme de Néandertal serait une sorte de grosse brute, parce qu'on pense à l'époque que c'était une sorte d'ogre. Et ça ferait une nouvelle géniale. 23 jours plus tard, Howard a envoyé à Weird Tales une nouvelle, dans laquelle vous avez un homme préhistorique qui est un Cro-Magnon, qui est un artiste, et qui va devoir se battre contre un homme de Néandertal. Il a suivi à la lettre les recommandations de Wright. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que la nouvelle était bonne ou pas? C'est difficile d'en juger. Est-ce que Wright l'a trouvée bonne ou pas? Difficile d'en juger. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a vu, Wright, ici, c'est qu'il y avait un auteur qui avait lu son courrier, qui avait suivi ses recommandations, et à l'époque, Wright cherchait à sauver Weird Tales. Il a dû se dire que, ben voilà, je pense que cet auteur-là, c'est quelqu'un qui est prêt à suivre des conseils, donc peut-être qu'il y a moyen d'en faire un grand auteur. Et du coup, Howard s'est retrouvé publié dans Weird Tales. Pour la première fois, sa carrière a été lancée. Voilà. Je trouve que c'est une anecdote assez intéressante et qui illustre bien, d'abord, c'est un événement qui était totalement, quelque chose qui était totalement inconnu, et surtout, ça nous montre qu'on a toujours plein de choses à apprendre sur les Howard. Deuxième exemple que je voulais vous donner, il y a un an, donc j'étais au Texas, j'étais en train de fouiller dans les affaires de Dan Lord, qui a été pendant très très longtemps l'exécuteur testamentaire de la famille de Howard, et donc qui avait amassé des kilotonnes de choses. Et donc j'aide sa veuve à classer un peu tout ce matériel, et je suis tombé sur un vieux carnet dans lequel on mentionnait une certaine Edna Mann. Alors Edna Mann, on a une lettre d'elle, et Dan Lord l'avait retrouvée en 1273, et il y avait une adresse de Mann. Glenn Lord retrouve la trace de cette femme, elle lui dit oui, j'ai correspondu avec Howard, il m'a envoyé un jour une lettre, elle lui a envoyé cette lettre, qui est connue depuis une trentaine d'années. Et donc l'an dernier, je retombe sur ce fameux carnet, je me rappelle avoir parlé de Naman avec Glenn, et je décide de partir à la recherche de Naman et de ses descendants. Et c'est ce que je fais. Parce qu'on ne savait rien, on ne savait pas comment est-ce que Howard l'avait connue, dans quelles circonstances. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle habitait Bagwell, une région où la famille Howard avait vécu en 1913-1914, donc lorsque Howard avait 6 ans ou 7 ans. Et je tombe sur l'arrière-petite-fille d'Edna Mann, et on commence à lancer une correspondance, et je lui explique qui je suis, ce que je fais. Et là, elle me dit, mais oui, ils sont, enfin, a priori, ils ont dû se connaître, c'est assez intéressant ce que vous me dites. Mais elle était née en 1901, donc c'est quelqu'un qui avait 6 ans de plus que Howard. Donc la camarade de classe qu'il a connue à Bagwell, l'histoire qu'on avait jusqu'à présent, elle ne tient pas la route. Donc il l'avait connue autrement, mais comment? Je ne savais toujours pas. Donc du coup, j'ai été faire des recherches dans les archives de Bagwell, au Texas, et là je tombe sur un entrefilet de journal qui dit que la famille Howard est en déplacement à Bagwell, ils sont arrêtés dans la ville, et ils vont se promener en vacances dans l'Arkansas pendant un mois. On est en 1926, et donc c'est comme ça que s'est établie la connexion entre Edna Mann et Howard, sur des circonstances à lesquelles je vais revenir dans quelques minutes. Mais surtout, ce qu'on apprend à travers ce nouvel entrefilet, c'est que pendant un mois en 1926, sur lequel on ne sait absolument rien de la famille Howard, on vient d'apprendre qu'ils ont passé un mois à se balader dans tout l'est du Texas jusqu'en Arkansas pour revenir chez eux ensuite au Texas. Et ça, il y a un mois, on ne le savait pas. Donc on a des pans entiers. Alors qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Je n'en sais rien. Et là, je suis en train d'essayer de retracer les gens chez qui il était. Donc apparemment, Edna Mann restait chez une cousine. Donc l'histoire est à suivre, puisque j'ai appris que Edna Mann était veuve à l'époque, son mari était mort quelques mois auparavant, et que après la mort de son mari, elle avait eu beaucoup de jeunes hommes qui la courtisaient. Donc évidemment ma question c'était, tiens, est-ce que Ward ne faisait pas partie de ces gens-là? Et donc là elle est en train de chercher dans ses archives, et alors sans vouloir trop vous en dévoiler, puisque c'est pas encore complètement sûr et que j'avance, elle a découvert des photos d'un suiteur, donc quelqu'un qui lui faisait la cour, qui s'appelait Ward. Point. À suivre. Voilà, je ne pense pas que ce soit notre Ward, hein, pour être très très clair, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne savait pas. Et on s'aperçoit aussi que la famille est restée à Bagwell, chez des gens qui ont un lien avec la famille Ward, et ce lien, on ne le connaissait pas. Donc, tout ça pour vous dire que lorsque vous faites la biographie de quelqu'un, lorsque vous avez les témoignages d'un tel, un tel, un tel, on n'est jamais la même personne en fonction des gens auxquels on s'adresse. Mais dans le cas de Ward, c'est extrêmement compliqué, puisque toute la biographie, tout ce qu'on peut faire en termes de travail biographique, doit être reconstitué à partir de ce qu'on pense deviner de l'homme à travers ses lettres et ses écrits. Donc quand vous lisez les nouvelles de Conan ou de Kull, etc., vous arrivez vaguement à vous faire une idée de quel genre d'individu pouvait être Ward. Mais est-ce que c'était vraiment le cas, ou est-ce que c'était plutôt la sensation qu'il aimait projeter? Difficile à dire. Et si vous étiez présent au débat tout à l'heure avec Lovecraft, je vous ai expliqué qu'il ne faut surtout jamais croire à la correspondance de Ward, puisque Ward est quelqu'un qui, par définition, va avoir tendance à exagérer les faits, à les déformer, voire à les inventer, et il ne va jamais laisser la vérité se mettre entre lui et un bon argument dans ses lettres. Donc on a quantité d'exemples de choses qui ont été inventées, déformées, ce qui fait que rechercher la vérité est toujours quelque chose d'extrêmement et d'éminemment complexe chez Howard. Et le travail, et c'est là-dessus que je vais conclure, le travail d'un biographe de Howard, c'est un des projets que je caresse dans les années à venir, c'est d'écrire une biographie monumentale de Howard. Pour moi, ça ne pourrait être quelque part une biographie psychologique. Parce qu'on a quelques articles de journaux, on a des éléments, on a des actes, on a des choses qu'on peut poser comme ça. Mais lorsque vous lisez les choses, vous rendez compte que tout est romancé, tout est mis en scène. Même les romans autobiographiques ou les nouvelles autobiographiques de Ward, lorsque vous les étudiez de près, vous vous rendez compte qu'elles ne racontent pas la vérité. Elles racontent la vérité déformée, ou elles racontent des événements exagérés, voire inventés. Donc, Ward est le narrateur auquel on ne peut pas faire confiance par défaut, et jamais puissance 10. Si Howard vous dit quelque chose, vous avez toutes les raisons du monde de vous en méfier. Donc une biographie d'Howard, quelque part, ne pourra être, je pense, qu'une biographie psychologique sur laquelle on sera appuyé sur les quelques événements qu'on peut avoir, puisqu'on n'a pas de témoignages, ou très peu de témoignages. On a des faits, des dates. On sait qu'il était là à tel jour, à telle heure. On sait qu'il a écrit telle nouvelle à tel moment, et c'est tout. Voilà, c'était juste pour vous dire ces petits éléments-là. Si vous avez des questions sur Ward, l'homme, ou des éléments qui vous posent question, qui vous interpellent, etc., ben vous n'hésitez pas, il nous reste 6 minutes, on peut en profiter.
Je voudrais éventuellement que tu développes un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au témoignage de Novalin Price. Tu as dit que à peu près la version publiée correspondait à peu près à la source, à ses écrits originaux d'avant publication. Et parce qu'il me semble que l'année dernière, tu avais envisagé qu'il y ait peut-être plus de choses. Alors, qu'en est-il exactement ?
Alors, Novalin Price a tenu un journal intime durant toutes les années 30. À la mort de Ward, elle a continué à faire ce journal, et lorsque les écoutes de Caen ont commencé à écrire leur biographie, ils lui ont demandé d'exhumer son journal et d'aller voir ce qu'il y avait dedans. Elle a collaboré au début avec les deux camps, ensuite ça s'est mal passé entre eux, pour des raisons que je ne vais pas vous détailler, mais vous commencez à imaginer. Et elle a décidé de sortir son propre journal. Donc elle a sorti son journal d'époque, et elle l'a retranscrit. Et elle a envoyé le tout à l'éditeur américain Donald Grant. Donald Grant a dit, voilà, c'est beaucoup trop long, on va couper. Parce qu'il y a plein de trucs qui nous parlent de la vie du Texas dans les années 30, et franchement tout le monde s'en fout. Ce que les gens veulent, c'est lire sur Ward et lire sur la relation que Ward avait avec Novalin Price. Et ce bouquin est paru en 1985. Ensuite, Rusty Burke a interviewé assez longuement Novalin. Ça a fait l'objet d'une autre publication annexe, et qui est sorti en 89. J'ai ensuite eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer Novalin un peu après chez elle. Et elle est morte il y a une dizaine d'années. Sa maison a été récupérée par son fils, mais il faut savoir que c'est un fils issu d'un autre mariage et ils ont eu des relations assez conflictuelles. Le manuscrit du journal. Alors, la version publiée par Donald Grant est une version coupée par rapport à la version longue, puisque Donald Grant avait trouvé que cette version-là était longue. Et donc ça, c'était l'état du numéro 2 du manuscrit, mais qui n'était pas le journal original. Tout le monde me suit bien. La question que je me suis posée il y a donc quelques années, c'est mais qu'en est-il du manuscrit original ? Donc là, il y a deux versions qui circulent. La première, c'est que le manuscrit est toujours là. La deuxième, c'est qu'elle a détruit le manuscrit, le journal intime, après avoir retranscrit, parce qu'il y avait des choses là-dedans qu'elle ne voulait pas avoir publiées de son vivant ou après sa mort. Qu'en est-il ? J'avoue que je n'en sais strictement rien. Il n'empêche que Novalin est morte, et que son fils a récupéré la maison, et son fils est un ermite, il n'y a pas d'autre terme, il vit reclus dans la même maison que sa mère, où toutes les affaires sont encore là, telles qu'à l'époque. Il y a 3 ans, donc tout le monde a essayé de contacter ce fils en question. Il y a 3 ans, je l'ai fait. Et 6 ans, je lui ai écrit une première lettre à laquelle il n'a pas répondu. Et tous les ans, pendant 5 ans, je lui ai envoyé plus ou moins la même lettre au mois de mars-avril. Je lui ai expliqué qui j'étais, ce que je voulais faire, que je cherchais à récupérer le journal original de Novalin avec l'intention de le publier, de voir s'il y avait des choses intéressantes, mais qu'il était bien évident que s'il y avait des choses à l'intérieur auxquelles il s'opposait, je ne les publierais pas. Enfin, un truc, voilà, qu'on puisse disposer de ce document pour la postérité. Et il y a 2 ans, il m'a répondu. Et donc c'était au mois d'avril, et il me dit, rencontrons-nous. Et donc 2 mois après, j'allais au Texas, j'allais au Wardens en juin. Et donc il a fait les 800 bornes pour venir nous rejoindre au Wardens. Et donc on a entamé un dialogue, et je lui ai expliqué voilà ma démarche, ce que je voulais faire. Alors il est très très réticent, ça met beaucoup de temps, ça fait 2 ans, et donc j'ai pas eu accès au journal, et lui n'a même pas été fouillé dans la maison pour savoir s'il y est, mais voilà, c'est quelque chose qui est en cours. Pourquoi est-il très réticent ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, il y a beaucoup de collectionneurs macabres. Par exemple, Novalin avait deux photos de Howard, que Howard avait fait rien que pour elle en 1934. Et en 72, il y a un collectionneur assez connu dans le milieu à l'époque qui a dit « Est-ce que je pourrais les emprunter pour en faire des copies ? Je vous les rends. » Il ne les a jamais rendues. Donc voilà, donc du coup il y a une méfiance par rapport à, c'est un collectionneur, c'est un spécialiste entre guillemets, donc les gens ne vous connaissent pas, et ça met beaucoup de temps pour bâtir une relation. Donc mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir faire rééditer ce bouquin aux États-Unis et en France. Alors j'ai pas encore le manuscrit, mais j'ai déjà l'accord du fils de Novalin pour le faire, si des fois on arrive à le retrouver, et j'ai réussi aussi à récupérer les droits pour la France. À suivre.
Par rapport justement au journal de Novalin Price, il y a eu un film qui a été fait qui s'appelle The Wild World.
Oui.
Dans quelle mesure il est, n'ayant pas lu le livre, la partie journal, j'ai lu le film, dans quelle mesure il est fidèle au journal ?
Il est fidèle à 99%. Il y a 2 scènes qui sont dans le film, qui ne sont absolument pas dans le bouquin, qui ne peuvent pas y être. C'est deux scènes assez ambiguës en plus. C'est les scènes où Howard qui s'occupe de sa mère. Qui par définition ne pouvait pas être dans le journal intime puisque Novalin n'était pas là lorsqu'elle se faisait. Donc ces 2 heures, je trouve, un petit peu gênantes puisqu'il y a il a voulu montrer un côté un peu bizarre, enfin, avec lorsqu'il s'occupe de sa mère. Ces deux scènes-là, excepté, le film est extrêmement, remarquablement fidèle au livre de Novalin. Il faut savoir que le scriptwriter, Dan Ireland, était quelqu'un qui avait été l'étudiant de Novalin lorsqu'elle était professeure à l'université, en Louisiane. Donc voilà, et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer aussi, qui est très 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 sympa, et qui a tenu absolument en fait à faire ce film parce qu'il avait eu Novalin comme enseignante.
Une question peut-être moins érudite. Manifestement, Howard a fait école derrière avec son monde, avec son ambiance de ses nouvelles. Maintenant, j'aurais voulu savoir d'où est-ce que lui-même tirait sa propre influence.
Vaste question.
Notamment pour Conan, voilà.
Vaste question. C'est, je pense en, sur beaucoup de choses que c'est Howard a créé son école. Je pense qu'il y a, il y a clairement un avant et un après Howard, le fait de faire des cartes de son univers, c'est lui, le fait de mélanger comme ça des univers, c'est lui. Alors vous pouvez trouver quelques exemples, j'en parlais avec Anne Besson il y a un ou deux ans, justement, je lui disais, mais pour moi Howard c'est quelqu'un de, qui a vraiment fondé toutes ces choses qui sont aujourd'hui courantes et qui vont de soi. Quelqu'un qui écrit un roman de fantasy, sa première étape c'est ok, je fais une carte, j'écris une histoire de mon machin, et je disais, mais trouve-moi un auteur qui a fait une carte avant. Et elle a mis plusieurs mois avant de me dire, mais si, il y a Oz, il y avait Baum qui avait fait ça 10 ou 15 ans auparavant. Mais ce sont des exemples extrêmement isolés. Howard est le premier à avoir systématisé tout ça, en termes de cohérence d'univers, si on parle bien de ça. Après, si on parle des œuvres qui ont inspiré le cycle de Conan, c'est bien ça? Je sais pas, enfin tout ça, j'imagine que tout ça c'est une BD. Pour moi, il y a un auteur de pulp qui est extrêmement important, c'est Harold Lamb, qui n'est pas dans le domaine du fantastique. Je ne pense pas que les influences de Howard soient dans le domaine du fantastique, elles sont faibles. Lovecraft en petite partie pour Conan, mais c'est principalement Harold Lamb. Harold Lamb, c'est un auteur vedette de la revue Adventure. Donc il est publié en France depuis 2-3 ans, aux éditions Calidor, son cycle plus célèbre qui est celui de Clit le Cosaque. Donc c'est purement des aventures, de l'aventure, ce que les Américains appellent de la swashbuckling tale, donc c'est des aventures historiques et hautes en couleur. Et il y a une thématique très très commune et profonde entre Howard et Lamb, c'est ce côté je m'intéresse aux zones qui délimitent la frontière entre barbarie et civilisation, et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est vraiment toujours très fluctuant, très très ambigu. Lamb est très très notable comme influence. Shakespeare, pour beaucoup de choses, vous remarquez, si vous lisez les nouvelles de Conan en anglais, vous verrez qu'il y a énormément de passages descriptifs, de citations déguisées ou pas déguisées, qui sont directement tirées de Shakespeare. Les scènes de bataille en particulier sont très théâtrales. Quand vous lisez le compte-rendu de la bataille dans La Stèle écarlate ou L'Heure du Dragon, c'est limite du Henri V. Vous avez dans L'Heure du Dragon, vous avez 4 ou 5 fois, alors c'est moins vrai dans la version publiée, mais dans les versions de travail, vous avez des avant qui sont le terme élisabétain qu'on retrouve dans Macbeth et dans Hamlet en particulier. Vous avez there is math, il y a une méthode à sa folie, je sais pas comment on dit en français, pour la fameuse citation d'Hamlet, on la retrouve 3 fois dans le roman. Donc ce côté souffle épique, oui, c'est effectivement, bon, c'est Shakespeare, Lamb, et dans les auteurs fantastiques, pour moi, il n'y a pas grand monde. Il y a un petit peu de Lovecraft, mais j'aurais tendance à dire que Conan, c'est rien d'autre que du roman historique déguisé, à la base. C'est, je veux faire du roman historique, je veux faire du roman hystérique épique, je ne veux pas de bien, de gentil, enfin, c'est pas la lutte du bien contre le mal, c'est juste des hommes qui se tapent dessus, et puis à la fin, gagnent qui va gagner, mais c'est pas forcément les bons. Et il n'arrive pas à publier correctement dans les revues historiques de l'époque parce qu'elles payent mal, parce que ça demande énormément de temps pour faire des recherches. Et Weird Tales, ben, on s'en fout. On peut faire n'importe quoi. Donc du coup, il peut créer un agiborien qui est un truc... L'agiborien, c'est de briques et de broc. Je prends toutes les périodes historiques qui m'excitent et puis je les fous dans un panier et puis hop, je remue et je m'éclate et je fais ce que je veux. Parce qu'il écrit une nouvelle qui est une nouvelle absolument extraordinaire, crépusculaire, dans laquelle il parle à la fin, c'est la mort de Timur. Et il y a un lecteur qui lui dit, mais c'est pas possible qu'il emploie telle arme en 1453 parce qu'elle n'a pas été inventée avant 1458. C'est de la fiction, vieux. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Mais non. Et donc, du coup, il en a marre d'avoir des auteurs qui lui reprochent ce genre de choses. Et donc, dans Weird Tales, l'avantage, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Et s'il veut qu'il y ait un mousquet à l'agiborien, il peut. Parce que personne ne peut lui reprocher. Et donc, le souci, c'est qu'il est obligé de foutre un monstre à la fin. Et donc, vous avez dans les meilleures nouvelles de Conan, ça va, mais dans les nouvelles alimentaires, on sent bien qu'à la fois, ah bah tiens, il faudrait une tentacule, un truc visqueux, un peu cthuloïde, style le monstre qui, à la fin d'une sorcière, viendra au monde. Alors, c'est une nouvelle que je trouve absolument extraordinaire en termes de construction, mais le monstre, il est juste pas crédible, quoi. C'est Japi, pouh, il y a un gros crapaud qui sort du temple, il est un peu gros, on fout 3 flèches, il est mort. Ah bah il est mort. Voilà, on sent bien que c'est juste l'excuse qu'il fallait pour remplacer la nouvelle. Donc, dans les meilleures nouvelles de Conan n'ont pas besoin d'éléments fantastiques. Et là où Howard est déguisé, ou il n'est pas véritablement fantastique, dans les meilleures nouvelles de Conan, si on cherche la reine de la côte noire, la sorte de créature, elle n'est pas décrite comme étant une créature fantastique, c'est une créature préhistorique. Dans Au-delà de la rivière noire, à part le chaman qui a quelques pouvoirs vaguement magiques ou chamaniques, c'est pas non plus c'est pas du Cthulhu. Quand on lit L'Éclou rouge, à part le type qui revient des catacombes, il a vécu bizarrement dans des catacombes pendant 20 ans, on sait pas trop comment, mais ça va pas plus loin. Donc il n'y a pas ce côté, il faut une créature qui soit oui, poulpesque, hein, pour parler de Lovecraft. Il n'a pas ce côté-là, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Le monde iborien, le monde de Ward en général, c'est un monde entièrement et totalement anthropomorphe. C'est pour ça qu'on peut, je trouve, beaucoup le relier bien plus à celui d'un George Martin que d'un Tolkien. Il n'y a pas d'orques, il n'y a pas de créatures étranges. Vous avez des hyènes géantes, vous avez des gorilles géants, vous avez des chiens géants, vous avez des machins géants, mais vous n'avez pas de trolls, de gobelins, de licornes, tout ce que vous voulez. Et c'est en cela qui est intéressant. Alors, Martin a rajouté nos dragons, évidemment, mais à part les dragons, quand vous lisez Martin ou quand vous regardez la télévision, ce que vous voyez, ça, c'est des rois maudits. Hein. C'est Howard, c'est la même chose. Le monsieur au fond.
Je tenais juste une petite seconde pour renvoyer un article du Bifrost spécial Howard qui expliquait justement que Howard n'avait pratiquement aucun intérêt pour le fantastique. Notamment dans le... Dans sa correspondance, il parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes, mais le fantastique, c'est un truc qui n'apparaît jamais.
Encore une petite question, ou alors on... Oui.
Alors, pour le coup, j'avais lu que Lovecraft avait une relative fascination pour Lord Dunsany et qu'il s'en était beaucoup inspiré. Je me demandais du coup, parce que moi je ne l'ai pas trouvé dans les recherches que j'ai pu faire, est-ce que Howard a eu un contact quelconque avec les écrits de Dunsany ?
Oui, il aimait bien ses poèmes.
Et il n'a pas lu le reste ?
Il n'en parle pas. Ça l'a pas. Enfin, je pense pas que. Alors, en lisant Dunsany, en lisant Howard, je vois vaguement l'influence sur la poésie, mais vraiment vaguement. Mais sur les écrits, peut-être sur 2-3 nouvelles de Cull, et encore. Mais c'est, pour moi, c'est absolument pas une influence déterminante. Si des fois il l'a lu, j'en suis franchement pas sûr. En tout cas, j'ai rien trouvé qui me permette de dire oui, il l'a lu. C'est, enfin, à part, il dit à un moment dans une lettre à Lovecraft, j'aime bien la poésie de Dunsany. Point. Voilà. Une dernière pour la route ou alors c'est... Un, deux. Voilà. Une dernière pour la route, c'est bon. Alors, avant qu'on termine, je vais laisser la parole. Deux petites secondes à mon camarade Benjamin qui voudrait vous faire une petite annonce qui devrait vous intéresser.
Merci Patrice. Donc c'est juste pour informer d'une conférence, c'est une première pour moi, hein. Je n'ai jamais fait avant, sur Paris. C'est rare de me voir à Paris en semaine, mais là j'ai accepté. Je suis Benjamin Bory, je suis l'auteur de l'article Tolkien Award qui est dans le numéro 84 de la revue Bifrost, que tout le monde connaît ici, je pense. Et dans le prolongement de cet article, on m'a gentiment invité à développer, parce que d'ailleurs j'ai eu les échos que c'était un petit peu frustrant, que j'avais pas assez raconté, dans le cadre d'un séminaire Tolkien qui a lieu cette année, entre 2016 et 2017, donc à l'École nationale supérieure de la rue d'Ulm, l'ENS. Je suis chargé de faire la conférence du 23 mai de cette année, de 18h30 à 20h30, et qui est ouverte à tous. C'est un séminaire universitaire, donc c'est plutôt pour les étudiants, d'ailleurs, je crois que c'est le mardi soir. Moi-même, je pourrais, en temps normal, je n'aurais pas pu assister à ma conférence aussi. Voilà, donc, j'espère qu'ils vont me payer le billet d'ailleurs, parce que bon, c'est une chance. Hein. Bref, ça s'appelle Tolkien et Howard, deux auteurs, deux pères fondateurs. Donc c'est le même titre que l'article, je ne suis pas fatigué.
Ouais.
Voilà, à un moment donné, voilà quoi. Et puisque c'est le prolongement de cet article, c'est dans le cadre également d'un livre que je prépare depuis longtemps. J'espère qu'il sera un jour terminé, prochainement. Et donc voilà, c'est que vous dire de plus. Si vous avez lu l'article, vous avez déjà un petit avant-goût. Sinon, venez là. Bon, au pire, la conférence sera enregistrée. Mais ça me fera plaisir de voir des Howardiens, et pas seulement des Tolkieniens. Tout le monde est bienvenu, et même ceux qui sont ni l'un ni l'autre, venez. Voilà. Merci beaucoup, Patrice.
Donc je vous rappelle, c'est le 23 mai de 18h30 à 20h30. On remercie déjà de votre présence. On se retrouve à, je crois, 16h. Alors ça va être assez sympa, puisqu'on va parler en fait des adaptations de Howard dans l'univers ludique. À mes côtés, Chris Birch, qui est le PDG de Modifius, qui nous sort un jeu de rôle Conan dans quelques semaines. Et on aura aussi Leonidas Vesperini, qui a travaillé sur le jeu de plateau Conan de chez Monolith. J'interviens avec eux et on parlera des aléas de l'adaptation ludique d'une œuvre littéraire, jusqu'où peut-on être fidèle, comment trahir, qui trahir, de quelle façon trahir, et comment est-ce qu'on peut gérer la présence d'un Louis-né dans un projet qui a vocation à être fidèle à Howard. Ça devrait être musclé et sympathique. On se retrouve vers 16h. Merci de votre attention.